Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Au terme de plusieurs semaines d'interdiction des rassemblements religieux, les catholiques ont célébré hier la Pentecôte. Depuis le 23 mai, les lieux de culte sont ouverts aux services religieux dominicaux sous conditions de mesures sanitaires précises. Bonjour, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
Bonjour monsieur.
Vous êtes archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Comment avez-vous vécu ce moment de réouverture?
Écoutez, avec beaucoup de joie, un petit peu d'étonnement parce que c'est toujours étonnant de voir une assemblée où les gens sont répartis assez loin les uns des autres avec des masques, avoir soi-même un masque pour présider une célébration, c'est pas extrêmement commode. Mais au total, ça s'est bien fait. Nous étions vraiment heureux de pouvoir vivre un peu plus normalement.
Et alors, comment percevez-vous le fait que les églises ont dû attendre 12 jours de plus que les commerces pour ouvrir leurs portes?
Écoutez, je dois dire que pour moi, il y a eu un problème posé dans la formulation, en tout cas, de l'interdiction de la reprise des cultes en même temps que le déconfinement se faisait dans d'autres secteurs. Donc, le Conseil d'État l'a tranché. C'est une question de liberté des cultes. Que les pouvoirs publics interdisent des rassemblements de plus de 10 personnes, c'est leur droit. Qu'ils visent spécifiquement les cultes, eh bien, le Conseil d'État lui-même a tranché que c'était une atteinte à une liberté fondamentale.
Pourquoi, d'après vous, pourquoi a-t-on visé si
on vous suit? Je pense qu'en fait, c'est une maladresse de rédaction, qu'on voulait éviter. On a voulu éviter des rassemblements qui font que, comme d'ailleurs le Conseil d'État le dit lui-même, des gens restent à proximité pendant un temps long. Quand on va faire des courses, on ne reste pas une heure côte à côte, on bouge. Voilà. Mais tout ceci s'organise et toutes les informations que vous avez données d'ailleurs auparavant, y compris ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, montrent que on peut s'organiser et qu'on s'organise. En tout cas, nous, catholiques, nous avions, à la demande des pouvoirs publics, présenté un plan et sur lequel nous avons beaucoup tardé à avoir des réactions.
Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour maintenir, respecter les règles sanitaires, les règles de distanciation physique dans une église, Monseigneur?
Non, dans la liturgie catholique, le point le plus délicat, c'est le moment de la communion, puisqu'on donne le corps du Christ avec l'hostie, disons, dans la main ou dans la bouche des fidèles. Donc on ne peut pas le donner dans la bouche, ça se comprend. On peut le donner à la main en évitant le risque de contagion. Et le masque permet d'éviter que la proximité à ce moment-là devienne dangereuse.
Et alors sinon, sur le plan spirituel, comment avez-vous vécu cette période, Monseigneur?
Écoutez, c'est une période intéressante à deux titres. D'abord parce que pour tout le monde, je dirais, comme on a eu moins d'activité, moins de mouvement, que le temps était un peu moins frénétique, bien, c'était pour beaucoup, je pense, un temps de réflexion, de méditation. Et je dirais surtout, on a pu habiter chez soi et peut-être en soi. Alors certains l'ont vécu très douloureusement, mais pour un certain nombre quand même, ça a été un moment intéressant, je dirais. Et puis, du point de vue de la vie sacramentelle, liturgique, spirituelle, il y a eu beaucoup de créativité, ça a été souligné à plusieurs reprises. Et les moyens, les réseaux sociaux, les moyens de communication nous ont beaucoup aidés et ont permis aux fidèles aussi de se nourrir de manière très variée. Et comme nous avons eu la chance de vivre le début du confinement dans le temps du carême et de la semaine sainte, eh bien le carême et la semaine sainte donnaient du sens à ce temps et en même temps ce temps a permis à beaucoup de vivre très intensément et le carême et la semaine sainte.
C'était aussi un temps terrible avec beaucoup de tristes nouvelles, Monseigneur.
Beaucoup de funérailles, oui, beaucoup de décès, évidemment, donc beaucoup de funérailles, et des funérailles qui ont été célébrées dans des manières contraintes, ce qui est douloureux et ce qui reste douloureux pour ceux et celles qui ont perdu un proche.
Et oui, parce que la distanciation physique pendant ces périodes-là est terrible.
C'était très douloureux et pour moi, ce qui a été le plus, d'après ce que je vois, le plus douloureux, c'est de ne pas pouvoir aller rendre visite aux personnes à l'hôpital, ne pas accompagner un proche qui est en train de mourir, que ce soit d'ailleurs du Covid-19 ou d'autres choses. Et là, il y a quand même vraiment une question que notre société doit se poser, parce que malgré tout, ce genre de situation pourrait se présenter encore. Tout le corps social s'est mobilisé pour sauver des corps individuels, disons, mais on a parfois fait comme si ces corps n'étaient pas habités par des personnes, n'étaient pas ceux de personnes qui vivent de relations.
Alors, justement, est-ce qu'il y a eu une sorte de moment humaniste, puisque on a préféré sauver des vies plutôt que de sauvegarder l'économie, Monseigneur, qu'en pensez-vous?
Bien, de fait, pendant longtemps, on a sacrifié des corps individuels au profit du corps social, disons, ça c'est la guerre, ça a été les guerres de ces derniers temps. Là, on a paralysé ou mobilisé le corps social au service des corps individuels, donc on peut dire que c'est un moment humaniste. En même temps, peut-être que le fait qu'on n'était pas préparé fait qu'il y a eu de la peur aussi, que certaines mesures ont été exagérées ou que l'application d'un certain nombre de mesures a été exagérée dans un certain nombre de secteurs, et que peut-être qu'une plus grande confiance mutuelle, une plus grande maîtrise aussi face à une menace aurait pu permis quelque chose, une réaction plus nuancée, plus graduée. En tout cas, il faut se poser la question pour le cas où.
Alors, aujourd'hui, la vie reprend son cours avec ces polémiques, ces questions d'actualité. Parmi les questions qui se posent, eh bien, on retrouve la question de la féminisation du clergé avec la candidature d'une femme, Anne Soupa, à l'archevêché de Lyon. Votre point de vue à ce sujet, Monseigneur?
Bon, bah, cette candidature est évidemment une provocation. Donc, une provocation, bon, ça peut agacer, mais ça peut aussi être fait pour faire réfléchir. Donc, de fait, aujourd'hui, la question du rapport homme-femme est une question très prégnante dans notre société. Donc, tout ce qui paraissait évident ne l'est plus. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ou bien la différence homme-femme est un retard de l'évolution qu'il faut surmonter d'une façon ou d'une autre. Ou bien cette différence homme-femme a un sens, ce que je crois, ce que nous croyons, nous, comme catholiques, et alors, à ce moment-là, il y a peut-être un certain sens à ce que cette différence se reflète dans la liturgie. Après, dans l'organisation de l'Église, dans la répartition du pouvoir, il y a certainement beaucoup de transformations qui se sont faites, mais elles peuvent certainement continuer.
Mais alors, précisément, si vous considérez qu'il y a une différence homme-femme, cette différence pourrait enrichir l'Église si ces femmes étaient acceptées dans la liturgie.
Alors, elle pourrait enrichir ces états acceptés. Ça se fait dans un certain nombre de confessions protestantes, y compris chez les anglicans, comme vous le savez. Ce qui est plus important, il me semble, c'est que la voix particulière des femmes soit entendue. Mais cela suppose qu'on accepte aussi l'idée qu'il y a une voix particulière des femmes. Et comme vous le savez, aujourd'hui, un certain nombre de courants de pensée mettent en cause toute idée qu'il y ait une voix particulière des femmes ou des hommes masculins. Il n'y a que des individus. Donc je pense que nos sociétés n'ont pas fini de réfléchir autour de cette thématique.
Est-ce que vous pensez que c'est une étape vers la modernisation de l'Église? Est-ce que la modernisation de l'Église, c'est un projet pour vous, Monseigneur, ou est-ce que ce sont des termes qui peuvent pratiquement passer?
Non, ce n'est pas dans ces termes-là que j'exprimerai les choses. Ça n'a pas beaucoup de sens, que je crois plutôt...
Pour vous, ça n'a pas le terme de... Pardonnez-moi, le terme de modernisation de l'Église, ça n'a pas de sens véritable?
Non, parce que il me semble que le rôle de l'Église, c'est pas de se moderniser. Le rôle de l'Église, c'est d'aider à vivre les richesses de la révélation dans toutes les situations, donc dans toutes les conditions, mais aussi de travailler de l'intérieur l'état de la société, parce que il est toujours à critiquer, il est toujours à reprendre, il est toujours à modifier. Il n'y a pas de société humaine parfaite, et la révélation de Dieu nous oblige et nous appelle toujours à critiquer et à transformer de l'intérieur les représentations dans lesquelles nous vivons. Donc la modernisation n'est pas en soi un objectif. Après, ce sont des hommes d'aujourd'hui et des femmes d'aujourd'hui qui vivent dans l'Église, qui font l'Église, et il faut que nous vivions de toutes les ressources possibles, toutes les ressources spirituelles, culturelles possibles. Ça c'est un objectif plus intéressant. Donc il y a une rénovation continuelle de l'Église à vivre, c'est certain. Et puisque la question porte sur les rapports hommes-femmes, ces rapports, il y a toujours à essayer de les vivre mieux. Mais je pense que dans l'Église, nous vivons des rapports hommes-femmes, certainement des choses à améliorer, mais il y a aussi beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des grandes responsabilités dans la vie concrète de nos diocèses et des paroisses, et qui apportent beaucoup, et sans lesquelles rien ne se ferait. Donc tout cela peut s'améliorer certainement, mais c'est déjà largement court.
Merci beaucoup, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Je rappelle que vous êtes archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France.